nous puissions réaliser ce que nous venons de chanter. Et que dans ces moments, nous éprouvions vraiment tous les bienfaits de ta présence. Car tu nous l'as dit, témoin fidèle, témoin véridique qui ne peut nous mentir, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. Et nous savons que tu es présent, toi qui as créé cette nature si belle, dans laquelle nous nous trouvons ce matin, sensible à tant de beauté. Nous t'adorons, nous te bénissons, nous voulons avoir une vie d'adoration pour connaître, si tu n'es pas venu avant, un départ dans l'adoration, afin que notre témoignage de vie et de mort soit pleinement à ta gloire. Nous savons que la mort nous fixe dans l'état où elle nous trouve. Donne-nous donc d'être prêts et d'être occupés de tes affaires quand tu nous appelleras pour ta seule gloire. Amen. Eh bien, nous sommes déjà de l'autre côté de notre demi-semaine. Tout va très vite. En ce 5 juillet 1989, nous continuons notre thème « Vous serez mes témoins ». Et nous arrivons ce matin au chapitre 9, du livre des Actes, qui, comme nous l'avons souligné, sert de toile de fond à tous ces messages que le Seigneur a mis dans nos cœurs pour ces journées. Et ce chapitre, comme vous l'avez constaté, si vous avez pu le lire, a 43 versets. La première partie concerne la conversion de Paul et la seconde, le ministère de l'apôtre Pierre. Pierre et Paul, ce que l'on voit dans les catacombes de Rome, constamment cette inscription, Pierre et Paul, Paul et Pierre. Ces deux piliers dont Dieu s'est servi, l'un spécialement pour témoigner parmi les Juifs, et ce seul de Tarse devenu l'apôtre Paul, qui n'était pas l'un des douze, pour témoigner parmi les païens. Hier soir, au début du chapitre 8e que nous avons survolé, nous avons retrouvé ce seul de Tarse progressant dans sa haine contre le Christ. C'est très frappant de voir cette gradation de haine dans le cœur de Paul. Après avoir gardé d'abord les vêtements des meurtriers d'Étienne, il prenait plaisir au supplice d'Étienne. Puis, nous avons lu qu'il ravageait l'église de Jérusalem, et non content de cela, il ira porter la persécution jusque dans les villes où l'œuvre du Seigneur s'était étendue. Et ce chapitre 9 va nous le montrer s'en allant dans la ville de Damas. et quels sont les sentiments qui l'animent, alors qu'il est pourtant un homme très religieux. Quand il va dans cette ville de Damas, revêtu des pouvoirs des chefs de son peuple, on voit un homme sûr de lui, qui a un avenir assuré. Il est vraiment quelqu'un, inscrit au pied d'un des grands docteurs d'Israël, Gamaliel, mais n'ayant pas son libéralisme. Mais il aimait à se glorifier. Il pouvait dire qu'il était, lui, circoncis le huitième jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu. Quant à la loi, il faisait partie de la secte la plus orthodoxe, il était pharisien, et quant au zèle, il le dit lui-même du fond de sa prison de Rome, quand il écrit aux Philippiens, au chapitre 3, persécuteur de l'Église, et tout en étant persécuteur de l'Église, il se sentait irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Voilà donc un homme religieux, comme on en a vu aujourd'hui, des fanatiques qui sont sûrs d'être dans la vérité. Vous avez cela dans beaucoup de religions. Les fous de Dieu, dans l'islam, ils sont sûrs d'être dans la vérité. Et en massacrant les chrétiens, et nous en sommes, je le pense, et vous savez, l'islam est en train de monter, les Arabes venant de plus en plus habiter dans nos pays, les mosquées devenant de plus en plus grandes et de très beaux bâtiments, alors que les églises dites chrétiennes se vident, il est bien possible que nous ayons à souffrir et à devenir témoins, c'est-à-dire martyrs, de sorte que notre responsabilité, c'est de nous avertir les uns les autres et de ne pas tomber simplement dans le triomphalisme parce qu'il y a des âmes qui se convertissent au Seigneur. Il faut des conversions solides, il faut des âmes trempées et qui savent qu'en se donnant au Seigneur, elles font peut-être le sacrifice de leur vie. Le Seigneur ne veut pas seulement nos âmes, mais il veut nos corps. Parce que c'est dans nos corps que Dieu peut se manifester au monde. Pas seulement par nos paroles, mais par nos actes. Alors, sachant ces choses, essayons de nous laisser instruire ce matin. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre. Vous voyez, en quelque sorte, il avait trouvé une raison de vivre. C'était sa respiration. Le meurtre d'Étienne, eh bien, lui avait comme donné encore une excitation pour anéantir ce mouvement des chrétiens, des disciples du Christ, qui menaçait pour lui la religion de ses pères. Et Josaphat nous a dit combien ce sentiment qu'il attachait à la religion de ses pères le poussait même, je ne dis pas à persécuter Françoise, mais enfin à s'opposer Et ça peut aller plus loin. Sol respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Il se rend chez le souverain sacrificateur et il lui demande des lettres pour les synagogues de Damas. Il n'est pas satisfait de son œuvre de sang et de larmes à Jérusalem. Il veut étendre la persécution plus loin, comme vous voyez l'islam aussi, qui veut tout envahir. Alors qu'il y a une déchristianisation de plus en plus grande sur la planète, malgré tous les bulletins de victoire que l'on proclame, nous sommes obligés de constater qu'il y a un zèle chez les musulmans et qui nous humilie. Et ils sont sûrs de servir Dieu, d'être dans la vérité. Quand ils deviennent kamikazes et qu'ils ont cette clé de bois qu'on leur a donnée et qu'ils se suicident en faisant une œuvre de terrorisme, ils partent en étant assurés d'aller au paradis. On leur a dit cela, et eux le croient, mais chez les chrétiens, qu'est-ce que nous croyons? Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Alors nous voyons donc ce Saul de Tarse, animé de haine contre les rachetés du Seigneur. Et il veut frapper tant les hommes que les femmes et les amener liés à Jérusalem. Car quand on a enlevé les parents, on peut posséder les enfants et les instruire à notre manière. Et il est dit que il prendrait ses hommes et ses femmes, partout où il en trouverait, suivant cette voie ou cette nouvelle doctrine. Il ne savait pas encore que ces gens n'avaient pas une doctrine, et simplement une certaine manière de vivre, ce qu'on appelait la voie dans l'Ancien Testament, ou des pratiques religieuses. C'était une vie nouvelle qu'il possédait. Alors le voilà qui s'en va, et comme il était en chemin, sûr de lui, plein de lui-même, de sa propre justice, et qu'il approchait déjà de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Une autre version dit, une lumière venue du ciel l'enveloppa de son éclat. Étienne avait été enveloppé par les pierres pour le faire mourir. Et voilà que ce Saul de Tarse, gardien des habits de ceux qui tuaient Étienne, il est tout à coup enveloppé d'une lumière venant du ciel. Elle resplendit autour de lui. Alors, que lui arrive-t-il? Il tombe par terre. Et il entendit une voix qui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Vous avez remarqué que quand le Seigneur appelle, il appelle presque toujours en répétant le nom. Abraham, Abraham. Quand il lui demande le sacrifice d'Isaac. Samuel, Samuel. Puis vous pouvez suivre cette ligne. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et alors, donc, il a vu quelque chose, une lumière qui l'éblouit. Maintenant, il entend une voix. Lui comprend distinctement que cette parole s'adresse à lui. Mais qui es-tu, Seigneur? Vous savez, on peut s'arrêter sur chaque mot. Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit, cette nouvelle qui va bouleverser sa vie, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Là, c'est Dieu qui parle. Et qui sait que tout au fond du cœur de Saul de Tarse, il y a des pointes, il y a des aiguillons qui le travaillent. Il est dur, il a cette apparence terrifiante, mais déjà, au fond de son cœur, il y a certains aiguillons qui lui viennent de quoi? Certainement d'Étienne. De ce qu'il a vu, c'est Étienne. Qui, bien sûr, a dû le voir, ce jeune homme qui gardait les habits de ceux qui lapidaient. Leurs regards ont dû se rencontrer. Et il a dû comprendre, quand il a entendu ces paroles, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché », qu'au fond, c'était une prière pour lui. Un aiguillon. Parce que vous voyez, ce qu'on a lu ce matin dans les Proverbes, le témoin véridique, qu'est-ce qu'il fait? Il, ben, évidemment, s'il est véridique, il ne ment pas, hein? Mais qu'est-ce qu'il fait? Il délivre des âmes. Hein? Ces versets, on les a appris quand on a lu les Proverbes. Hein? Il délivre les âmes. Et alors, c'est le Seigneur qui parle. Il t'est dur parce que lui voit les cœurs, il ne voit pas seulement les apparences. Une œuvre est commencée déjà. Alors qu'il est pourtant sur un chemin de méchanceté. Le Seigneur l'attendait. Et il lui dit, je suis Jésus. Quel bouleversement! Parce que ce qui caractérisait Saul de Tarse, c'était un homme sincère. Il était absolument sincère. Et il voulait servir Dieu. Mais sincérité n'est pas synonyme de vérité. Souvenez-vous toujours de cela. Il y a, dans vos conversations avec le monde, vous entendrez souvent cette parole, il suffit d'être sincère. Hein. Peu importe notre religion, il n'y a qu'un seul Dieu, il suffit d'être sincère. Mais sincérité n'est pas synonyme de vérité. Il était sincère, mais dans l'erreur, qu'est-ce qu'il croyait? Eh bien, il croyait ce qu'on enseignait à Jérusalem, chez les docteurs, que Jésus n'était pas ressuscité, que les disciples avaient enlevé le corps du Seigneur, les sacrificateurs avaient payé les gardiens du tombeau pour mentir, pour colporter cette nouvelle qu'au fond, le corps de Jésus avait été dérobé. De sorte que il pensait que ses apôtres étaient des imposteurs. Et les imposteurs, il faut les détruire. Et c'était là le but de sa vie, et il croyait plaire à Dieu. Puis voilà qu'il apprend que Jésus est vraiment vivant. Et que c'est lui-même qui lui parle. Saul de Tarse le dira, il n'a pas connu Jésus selon la chair. Mais pourtant, maintenant, il le voit. Et il apprend que cet Étienne était un témoin véridique. Qu'Étienne n'a pas menti quand il a dit « Je vois Jésus debout à la droite de Dieu », qui était prêt à revenir si les Juifs se repentaient. Ils avaient une occasion de voir le royaume s'établir. Mais le roi qu'ils avaient crucifié et qui leur avait pourtant pardonné, selon sa prière, prêts à revenir, ils n'ont pas voulu. Nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous. Dieu parle une fois, deux fois, on n'y prend pas garde, eh bien, ce sera pour l'Égypte leur condamnation et le commencement de leur dispersion parmi les peuples, dispersion qui a duré jusqu'en 1948. C'est quelque chose d'extraordinaire de voir ça. Mais Saul de Tarse apprend que Jésus est vivant. Et il apprend une autre chose, une première révélation. Il n'a pas touché à la personne même de Jésus, mais là, il a une révélation que quand on touche à un croyant, à un disciple de Jésus, c'est au Seigneur que l'on fait du mal. Je suis Jésus que tu persécutes. Quand tu touches un croyant, quand tu touches un disciple, tu touches le Seigneur Jésus. Il a eu la révélation du corps de Christ. Le Christ est la tête glorieuse dans le ciel, et son corps est formé de tous ceux qui croient. De quoi êtes-vous membres, chers amis? D'une communauté d'abord? C'est bien, il faut se réunir. Mais de quoi êtes-vous membres? Du corps de Christ. C'est à cela que nous devons tenir. Nous ne sommes pas membres d'une organisation, premièrement, mais nous sommes membres du corps de Christ. Et cette unité du corps est une réalité. Tous mes membres que je possède, que vous possédez, n'ont pas la même fonction. Il y a des membres qui sont cachés, des membres moins honorables que d'autres, mais nous avons besoin de tous nos membres. Et quand un membre souffre dans le corps, tous les autres souffrent. Eh bien, Saul de Tarse a eu cette révélation du corps de Christ. C'est quelque chose de fantastique. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Vous voyez le Seigneur enseigner un théologien comme l'était Nicodème, et nous constatons que Nicodème ne comprend pas les paroles de Jésus au sujet de la nouvelle naissance, alors qu'il devait être versé dans les Écritures et connaître certainement par cœur Ézéchiel 37 au sujet de cette transformation, de ce changement d'un cœur de pierre qui deviendra un cœur de chair, de ces eaux qui allaient purifier l'esprit. Eh bien, lui ne comprend pas. Et alors, à qui révèle-t-il? Se révèle-t-il vraiment à une pauvre samaritaine qui a une religion mélangée, qui ne sait pas grand-chose, qui connaît bien un peu les traditions de sa religion? Nos pères disent que c'est sur Garizim que l'on doit adorer. Vous, les Juifs, vous dites que c'est à Jérusalem. Et Jésus prend le temps de lui expliquer que c'est ni à Jérusalem, ni sur Garizim qu'on adorera Dieu, mais que les vrais adorateurs adoreront le Seigneur en esprit et en vérité. Et puis, soudainement, quand elle s'écrie, « Ah, quand le Messie viendra, il nous enseignera toutes choses. » Et que lui dit-il? « Je le suis. » C'est à elle, à une femme ayant une vie irrégulière, « Je suis, moi qui te parle. » Comme c'est bouleversant, les voix de Dieu. Mais comme ça devrait nous encourager, nous aussi, qui avons peut-être dans nos familles quelqu'un qui se trouve un peu comme cette femme samaritaine. Pourquoi ne croyez-vous pas que Dieu peut encore les atteindre? Ou des enfants qui marchent mal, des enfants qui ne suivent pas les préceptes que vous avez essayé de leur enseigner. Souvenez-vous que le Seigneur a fait un long chemin pour atteindre cette âme, parce qu'il aime les âmes dans la situation dans laquelle elle se trouve. Et maintenant, ce Saul de Tarse, il va le rencontrer parce que le Seigneur l'aime. Il l'aimait même au moment où il persécutait Étienne. Il l'a toujours aimé. L'amour de Dieu ne dépend pas de notre piété, de notre foi. Il nous aime tel que nous sommes. Et alors, à un certain moment, on s'en rend compte et l'amour de Dieu fait naître dans nos cœurs. Cet amour pour Dieu, comme l'eau retourne toujours à la source. C'est merveilleux. Il n'y a pas d'explication à l'amour. Un amour qui trouverait une explication, ce n'est plus de l'amour. On aime parce que on aime. On n'explique pas l'amour. Alors, Saul de Tarse est l'objet de cette révélation. Et il a vu le Seigneur. Et quand on lit ses épîtres, il n'y a plus que ce Seigneur qui compte pour lui. Il est l'objet des affections de son cœur et il veut vivre pour lui. Pour moi, vivre, dit-il, c'est le Christ. Il l'a vu, il l'a vu. N'ai-je pas vu le Seigneur? Il n'était pas du nombre de ceux qui pouvaient être nommés apôtres. Dans le chapitre premier, il n'avait pas connu le Seigneur. Il n'avait pas été au baptême de Jean. Mais vous voyez que le Seigneur est au-dessus de tout cela. Et il se révèle comme il veut et à qui il veut. Verset 6. Tremblant et saisi d'effroi. Ah là, il n'a pas la nuque raide. Il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Oh, que c'est beau. Quand l'œuvre de Dieu se produit par le Saint-Esprit dans les cœurs, eh bien, on n'a pas besoin de faire des pressions sur nous. Les âmes questionnent et voudraient être éclairées. Et alors, la méthode du Seigneur, ce n'est pas de nous dire « il n'y a qu'à faire ceci ou il n'y a qu'à faire cela ». C'est toujours graduel. Que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Il n'y a pas dit tout de suite, voilà ce qui va se passer. Ou voilà ce que tu dois faire. Non. Obéis, va d'abord, et on te dira ce que tu dois faire. Ça vous fait penser à Philippe. L'ange ne lui a pas dit, tu vas rencontrer l'eunuque d'Éthiopie sur le chemin. Il lui dit, va sur le chemin de Jérusalem à Gaza, lequel est désert. Et Philippe obéit sans savoir pourquoi il est envoyé là. La question pour nous, c'est pas que Dieu nous donne toutes les explications à la fois, c'est toujours la même méthode qu'il a employée avec Abraham. Sors de ton pays et de ta parenté pour aller dans le pays que je te montrerai. Et Abraham partit, sachant où il allait? Non, ne sachant où il allait. Mais à la première étape, Dieu se trouvait là. La question pour nous, c'est la foi toute nue, on obéit à l'ordre du Seigneur et on marche. Et voyez-vous, c'est dans tous les domaines, ça doit être comme cela. Ce n'est pas parce que j'aurai reçu de l'argent que je me dis qu'est-ce que je vais faire avec cet argent, je vais essayer de faire une œuvre. Non. J'ai dans mon cœur une vision qui m'est donnée par le Seigneur. Je n'ai pas d'argent, je n'ai rien pour réussir cela, mais la vision est là. Et qu'est-ce qui me fait agir? Ce n'est pas la possibilité matérielle. Ce qui me fait agir, c'est l'ordre du Seigneur. J'obéis. Et qu'est-ce que je vois? Le Seigneur donne ensuite. Il pourvoit. Mais dire, il nous faut d'abord l'argent, puis nous pourrons agir, ce n'est pas l'argent qui doit vous conduire. Ce n'est pas des possibilités matérielles qui doivent vous faire travailler, c'est la parole du Seigneur. Et si vous obéissez à la parole du Seigneur, vous verrez qu'en la montagne de l'Éternel, il y sera pourvu. Abraham n'a pas su qu'il y aurait un agneau retenu par les cornes derrière lui. Mais une fois qu'il avait le couteau et Isaac sur l'autel, le Seigneur a retenu son bras et Abraham, en se retournant, voit qu'il y a un agneau. Il a dit dans sa foi que Dieu pourvoirait pour l'agneau, mais il ne le savait pas. Dieu ne le lui avait pas dit. Et pour Marie, la mère bénie de notre Seigneur, ça a été exactement pareil. Dieu ne lui a pas dit, ou l'ange ne lui a pas dit, de la part de Dieu, que Joseph comprendrait, que Joseph accepterait une chose pareille, de voir sa fiancée enceinte. C'était tout le contraire qui se produisait. Et Marie a couru le risque d'être brûlée ou d'être lapidée, mais elle a obéi. Et Dieu est intervenu. C'est cela la vie de la foi. Et c'est cela qui fait que vous aurez un témoignage. C'est pas raconter, voilà, j'ai été sauvé, je suis sauvé, je suis sauvé. Ce n'est pas cela. Le témoignage, c'est se laisser faire par le Seigneur. Alors vous pourrez parler non pas de vous, mais de ce qu'il est pour vous, de ce qu'il fait pour vous. Il faut absolument que nous relisions la parole de Dieu d'une autre manière, avec d'autres lunettes que celles que nous avons eues, parce que nous sommes des myopes. Eh bien, que le Seigneur nous donne ses vues, afin que nous puissions, comme le dit l'apôtre Pierre, voir loin, hein, voir loin, être sûr qu'il sera là. C'est le dernier quart d'heure qui est le plus difficile, comme je le dis souvent, à tenir. Mais le Seigneur ne sera pas en retard pour ses délivrances. Vous voyez comme nous essayons toujours d'expliquer la parole par la parole. Nous n'allons pas en sortir. Lève-toi, entre dans la vie et on te dira ce que tu dois faire. Alors les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. On aura l'occasion de lire et de méditer dans la semaine suivante les deux autres récits où la conversion de l'apôtre Paul nous est donnée par l'apôtre lui-même. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux soient ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main. Vous rendez-vous compte? Le chef conduit par la main comme un petit enfant. Quelle humiliation! Le Seigneur nous abaisse, mais quand il nous abaisse, c'est pour nous élever ensuite. Mais il faut accepter cet abaissement. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. L'homme qui allait être la terreur de Damas entre dans Damas comme un enfant. Puis il resta 3 jours sans voir. Il ne mangea ni ne but. Après ce qu'il avait vu dans le ciel, un homme dans le ciel, un homme glorifié dans le ciel, c'était pas un Russe, c'était pas un Américain. Il y a un homme dans le ciel. Il y a un homme dans le ciel, un homme glorifié, et qui est le modèle de ce que vous serez un jour. Ça ne vous dit rien, le ciel? Jésus est là, le modèle de ce que nous serons un jour. Et ce que Jésus est, nos bien-aimés qui nous ont devancés, le seront eux aussi. Alors ils ne sont pas perdus. Et comme nous aurons l'occasion de le voir, nous sommes environnés d'une nuée de témoins. Ils nous entourent, nous ne les voyons pas, mais pourtant, ils sont là. Car Dieu n'est pas le Dieu des morts, disait Jésus. Dieu est le Dieu des vivants. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, car pour lui, tous sont vivants. C'est quelque chose de merveilleux. Ne pensons pas simplement aux corps qui sont dans la terre. Pensons à ces esprits des justes consommés dont nous parle l'Épître aux Hébreux. Et dans ces 3 jours de silence et de jeûne, l'Esprit de Dieu prépare Saul de Tarse. Et maintenant, il y a quelqu'un d'autre qui va être appelé 2 fois. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Ça va un peu vous réconcilier avec l'autre Ananias. On peut avoir le même nom, mais ne pas faire les mêmes choses. Voilà qu'il y a encore un Ananias. Et cet Ananias est appelé par le Seigneur. Saul de Tarse a été appelé sur le chemin, puis Ananias, qui est un des anciens de l'église de Damas, est appelé chez lui. Ananias. Et il répondit, « Me voici, Seigneur. » Lui, il n'a pas besoin de dire « Qui es-tu, Seigneur ?» parce qu'il connaît le Seigneur. Alors il peut répondre tout de suite, « Me voici, Seigneur. » Il connaît le Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite. Moi, je trouve ça admirable. Le Seigneur connaît le nom de nos rues où nous habitons. Vous trouvez pas que c'est beau? Et cherche dans la maison de Judas, il connaît le propriétaire, un homme Saul de Tarse. Il sait qui est l'hôte de Judas, ce Saul de Tarse. Puis il sait ce que ce Saul de Tarse fait dans cette maison. Qu'est-ce qu'il fait? Il prie. Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Vous voyez comme c'est le Seigneur qui prépare tout. Il donne à Ananias une vision intérieure de ce qui va se passer, de sorte que Saul de Tarse se laissera faire. Mais Ananias n'est pas du tout prêt à faire ce que le Seigneur lui demande. Mais Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes, parce que les nouvelles allaient vite aussi de ce temps-là, même s'il n'y avait pas la radio et la télévision. J'ai appris de plusieurs tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a des pouvoirs, donc on savait déjà à Damas, ça allait vite, de la part des principaux sacrificateurs, qu'il avait des pouvoirs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Alors lui, qui est un des responsables de l'Église, qui invoque le nom du Seigneur, il sait qu'il devait être un des premiers arrêtés. Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme... » Cet homme dont toute l'église de Damas craignait, cet homme est un instrument que j'ai choisi. Donc on est choisi avant que nous choisissions le Seigneur. C'est bien ce que Jésus disait à ses disciples. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et du fruit qui demeure. Jean 15, verset 16. Cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. C'est tout le ministère de l'apôtre Paul qui est au fond annoncé. Et ajoute le verset 16, je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Celui qui faisait souffrir apprendra qu'il va souffrir. Et que la mesure des souffrances qu'il aura est bien grande. Vous voyez que le Seigneur n'engage pas quelqu'un en lui disant, tu sais, ça ira bien avec moi. Tu auras toujours exactement tout ce que tu veux. Non. On est au service du Seigneur. Et le Seigneur ne nous trompe pas. Il n'engage pas quelqu'un avec de faux témoignages. Il nous dit la vérité. Jésus refusait ceux qui voulaient le suivre comme cela, spontanément, parce que, bon, ils étaient impressionnés par Jésus. Et nous avons vu Simon le magicien, il voulait suivre Philippe. Il s'attachait à Philippe. Mais ce n'est pas à Philippe qu'il faut s'attacher, c'est au Seigneur. Alors Ananias ne peut pas résister, il sortit. Et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul. Figurez-vous cela, lui qui avait tellement peur. Maintenant, il s'identifie à ce Paul, à ce Saul de Tarse, qui lui-même a confessé ce qu'il était, un blasphémateur, un persécuteur, un outrageux. Il dit qu'il était le premier des pécheurs. « Mais miséricorde m'a été faite parce que j'ai agi dans l'ignorance. Et Dieu a fait de moi un exemple pour ceux qui seraient amenés à croire. » C'est merveilleux. Nos vies appartiennent à Dieu. Il peut en faire des exemples. Alors, qu'il nous soit fait selon ta parole. Et quand nous pouvons dire que ta volonté soit faite, je me répète encore, cette volonté devient pour nous une fête. Ananias a donc accepté d'accomplir sa mission. Il s'identifie à ce Saul de Tarse et il lui dit, « Saul, mon frère. » Il n'a pas dit, « Je veux attendre quelques semaines pour voir si tu es vraiment mon frère. » Seul mon frère, voilà ce que Dieu fait. Le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé. Vous voyez, tout se fait par le ciel. Si je suis là, c'est parce que le Seigneur qui t'est apparu m'a envoyé. Pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Et au même instant, il tombe de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. On a de ces faits aussi dans l'Ancien Testament avec le prophète Élisée. Il se leva et fut baptisé. On n'a pas dit, bien, tu sais, après tout ce que tu as fait, après toutes ces persécutions que tu as fait, il faut quand même qu'on t'examine. Et que tu nous donnes des preuves de l'authenticité de ta conversion, quand c'est Dieu qui opère. Il fut baptisé, et après qu'il eut pris de la nourriture, j'aime beaucoup ce verset, n'est-ce pas, les forces lui revinrent. Il ne faut pas négliger de manger, si vous voulez tenir le coup aussi. Il avait jeûné, mais maintenant, il doit prendre de la nourriture. Vous voyez, quand Jésus a guéri la fille de Jaïrus, qu'est-ce qu'il a dit à ses parents? Elle avait 12 ans. Donnez-lui à manger, n'est-ce pas? C'est pas parce qu'il y a guérison, c'est pas parce qu'il y a résurrection qu'on peut se dire, ben maintenant, j'ai plus besoin de manger. Il faut continuer. On est encore dans des corps et qui ont des besoins selon la nature que le Seigneur a fait. Les forces lui revinrent. C'est ainsi qu'Élie aussi a été visité par un ange quand il avait sa longue marche vers la montagne de Dieu en Horeb, et l'ange lui dit « Mange, car le chemin est long pour toi. » Et il mangea et but, et avec ses forces renouvelées, il est arrivé à son but. Alors, Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. C'est quand même fantastique, hein? Il voulait les arrêter, puis maintenant il est devenu un disciple et un frère. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus était le Fils de Dieu. Alors nous voyons qu'un tout jeune converti, il peut déjà, dès les premiers jours de sa conversion, réellement, dire ce que Jésus est pour lui. Ça ne veut pas dire qu'il a déjà un ministère, hein, parce que il faudra 14 ans à l'apôtre Paul jusqu'à ce qu'il ait un plein ministère reconnu par Jérusalem. Mais il n'y a pas besoin d'attendre 14 ans. Dès les premiers jours, on peut témoigner de ce que Jésus est devenu pour nous. Mais il ne faudrait pas que des jeunes, et c'est peut-être aussi une certaine erreur de nos temps, on pousse tout de suite, n'est-ce pas, à certains ministères, alors qu'il n'y a pas eu appel véritable. il faut d'abord qu'il y ait appel. Et une fois qu'il y a appel, il y a formation. C'est pas, ça suffit pas d'être sauvé. Je suis un sauvé, maintenant je veux servir le Seigneur. Là, il y a des preuves à donner. Et aussitôt, il prêche à Jésus dans les synagogues. Alors, il se met en danger. Et tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui évoquaient son nom? Et n'est-il pas venu ici pour emmener, lier ces gens devant les principaux sacrificateurs? Oui, ça parlait. C'était un témoignage. Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs et les habitants de Damas, démontrant que Jésus était le Christ. Il ressemble à qui, là? À Étienne, n'est-ce pas? Il a en quelque sorte comme père spirituel un Étienne. Et il agit comme Étienne et il arrive à les convaincre. Mais au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer. Et leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. Il ne fallait pas qu'il s'échappe. Il devient le persécuté. Mais pendant une nuit, les disciples le prirent et le descendirent par la muraille dans une corbeille. Comprenez bien ce que ça a dû être pour ce Saul de Tarse, qui devait entrer sur son cheval dans la ville de Damas comme l'homme au grand pouvoir et qui doit s'enfuir la nuit à l'aide de ceux qu'il voulait persécuter et qui sont devenus ses frères et ses amis et qui le descendent dans un panier. Paul, dans un panier. Saul, dans une corbeille. Alors, il se rend à Jérusalem, et c'est pas facile. Saul tâcha de se joindre aux disciples, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il soit un disciple. Une dernière ruse pour mieux manifester sa haine. Alors, surgit ce Barnabas. Qui est-il, ce Barnabas? Est-ce qu'on l'a déjà connu? Qu'on l'a déjà rencontré? Oui. C'est le fils de Consolation qui a vendu son terrain et qui a apporté intégralement le prix aux pieds des apôtres. Avant que Ananias et Saphira limite sans avoir la foi de Barnabas. Barnabas était un homme de foi. Il a vendu son champ. Il était, semble-t-il, le frère de cette Marie de Jérusalem qui, elle, avait gardé sa maison, mais parce qu'elle recevait les frais. Il était l'oncle de Marc, qui est devenu l'évangéliste, qui a écrit le deuxième évangile. Alors, Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres. Il y a eu quelqu'un qui lui a fait confiance. Et c'est cela qui nous est précieux. Pendant longtemps, peut-être, on s'éloigne de nous, on ne veut pas de nous. Puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui fait confiance et qui va vers l'autre, qui est suspect et qui le présente. Il prend des responsabilités. Il le conduisit vers les apôtres et il leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé, et comment, à Damas, il avait prêché franchement au nom de Jésus. Alors, après ce témoignage, vous voyez ce que ça fait un témoignage. Il allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Il parlait aussi et discutait avec les hellénistes, ces Grecs qui s'étaient convertis aussi au Seigneur, à la religion juive, mais ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie, parce qu'eux étaient sortis du paganisme et puis avaient adhéré à la religion juive et eux étaient aussi assez fanatiques. Alors, que ce soit à Damas ou que ce soit à Jérusalem, on cherche à lui ôter la vie. Deux fois, il est dit cela dans ces quelques versets. On cherchait à lui ôter la vie à Damas, verset 24, et maintenant, à Jérusalem, on cherche à lui ôter la vie. Alors, les frères, verset 30, l'ayant su, l'emmenèrent à Césarée, et de Césarée le firent partir pour Tarse. Et Saul sera à Tarse, sa ville. Verset 31. L'Église est étompée, c'est un très beau passage, dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, elle s'accroissait par quoi ? Par les efforts des chrétiens ? D'abord, non. Par l'assistance du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit n'est pas contristé, quand les croyants ne résistent pas à l'Esprit et se laissent conduire par l'Esprit et marchent par l'Esprit, ils n'accomplissent pas les volontés de la chair. Et alors, il y a la bénédiction. Voilà où nous allons laisser l'apôtre Paul et nous passons dans la deuxième partie. Nous avons encore quelques minutes. Vous êtes assez bien ? Personne n'a froid ? Comme Pierre, alors c'est l'autre colonne maintenant, visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lydie. Donc, Pierre était à Jérusalem, et puis Lydie, c'est l'Aude d'aujourd'hui, où les avions atterrissent quand on va en Israël, et il y trouva un homme nommé Aîné, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. C'est quand même long, une maladie de 8 ans. Paralysé depuis 8 ans. Et Pierre lui dit, Aîné, Jésus-Christ te guérit. Qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, lève-toi, arrange ton lit. Un paralytique. Allons, travaille. On t'a toujours fait ton lit, mais maintenant tu vas le faire. Puis, qu'est-ce qui s'est passé? Aussitôt, il se leva. Mais, à quoi Pierre a-t-il pensé? Et qu'a-t-il vu? Qu'est-ce que ça lui a donné comme souvenir de voir un paralytique devant lui? Il avait vécu cette scène-là avec Jésus. N'est-ce pas? Au fond, il reproduisait ce que Jésus avait fait. Il avait vu ce que Jésus... Jésus disait qu'il faisait les œuvres de son Père. Hein. Il ne faisait rien qu'il n'avait vu faire par le Père. Et il a enseigné ses disciples de la même manière. Alors les disciples, tout ce qu'ils faisaient, c'est ce qu'ils avaient vu faire par Jésus. Et on attribuait non pas à Pierre, mais à Jésus la guérison. Pierre n'était pas un guérisseur. Mais au nom de Jésus, il a été guéri. Et il a eu la foi que ce que Jésus avait fait s'accomplirait encore en lui, parce qu'il s'était livré complètement à lui, esprit, âme et corps. Alors tous les habitants de Lydie et du Saron, cette merveilleuse plaine de Saron, que l'on trouve au bord de la Méditerranée quand on va là-bas, le virent et ils se convertirent au Seigneur. Un témoignage vécu était rendu. Puis on passe plus loin pour montrer ce que le Seigneur produisait dans ces vies qui lui étaient livrées. Il y avait à Joppé, Joppé c'est la Jaffa actuelle, parmi les disciples, il y avait une femme, enfin une femme hein, aussi, qui est nommée Tabitha. Il n'y a pas que des Saphira, il y a Dorca, qui signifie gazelle. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade. Vous voyez que on peut être très pieux, on peut être très actif dans l'œuvre du Seigneur, et on peut quand même tomber malade. Quand on nous dit que la maladie est la preuve d'un péché que l'on aurait commis, que si on était en règle avec le Seigneur, on n'aurait pas d'infirmité, eh bien, ne vous laissez pas troubler par cela. Parce qu'un homme comme Élisée, il est dit qu'il était malade de la maladie dont il mourut. Hein. Donc, il y a des hommes qui ont guéri, des hommes qui ont été d'une fidélité extraordinaire et qui ont connu la maladie. Et pour beaucoup, il y a eu des malades qui ont été des vrais prédicateurs sur leur lit de maladie et sur leur lit de mort. Donc, cette Dorcas, qui avait fait beaucoup de bonnes œuvres, tombe malade. Alors, on ne comprend pas. Mais pourquoi, maintenant qu'il y a au moins une femme qui fait le bien, pourquoi est-ce que Dieu la reprend? On est toujours prêt à juger Dieu. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade et elle mourut. Après l'avoir lavée, comme on le faisait là-bas, on la déposa dans la chambre haute. Comme Lydde est près de Joppé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent deux hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Ils sont dans le deuil. Ils viennent de perdre une femme d'élite qui réunissait beaucoup de veuves. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Vous voyez, on peut être appelé par des hommes, pas toujours par des anges. Les hommes nous font part de leurs besoins. Alors, lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Quelle est la réaction de Pierre? À quoi a-t-il pensé? Qu'est-ce qu'il avait fait avec Jésus un jour? Il avait été chez Jaïrus et il avait vu Jésus qui faisait sortir tout le monde. Alors, il n'est pas allé depuis Lydde à Joppé pour la ressusciter. Il ne sait pas encore qu'il aura à faire. Mais quand il est là, tout à coup, bien, il est saisi, il se souvient de ce que Jésus a fait, il fait sortir tout le monde. Vous voyez, ce qu'il a vu faire à Jésus, il le fait. Puis il se met à genoux. Qui est-ce qui s'est mis à genoux aussi? Hier, on l'a vu. Étienne. À genoux pour mourir. Lui, il se met à genoux et il pria. Puis, se tournant vers le corps, tout à coup, il est vraiment saisi. Il n'a pas essayé quelque chose. Et il dit, Tabitha, lève-toi. Il emploie les mêmes paroles que Jésus. Et il ouvrit les yeux, et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main. C'est beau. Vous vous souvenez qu'il a donné la main déjà à quelqu'un? Oui. Au boiteux de la belle porte de Jérusalem, il lui donna la main. Elle la fit lever. Et il appela ensuite les saints et les veuves. Elle la présenta vivante. Oh, c'est quelque chose de merveilleux. Elle était morte. Elle est vivante. Et c'est lui qui la présente. Cela fut connu de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Voilà comment Dieu honorait la foi et la confiance, l'abandon total de ses disciples. Pierre demeura quelque temps à Joppé. Chez qui? Chez un Simon corvoyeur, un certain homme qui s'appelait Simon corvoyeur. Et vous savez, ceux qui travaillaient le cuir, ce temps-là, étaient déclarés impurs. Et alors, on voit déjà toute une préparation. Pierre a déjà compris certaines choses et il accepte d'être logé chez ce croyant, mais qui a un métier qui est taxé d'impur. Ce métier où l'on faisait du cuir. Et ça va le préparer. Chez ce Simon corvoyeur, Dieu va faire une préparation dans le cœur de Pierre, qui ne sait pas encore que Dieu va l'envoyer chez les païens, qui sont encore plus impurs. N'est-ce pas pour lui? Les préparations de Dieu. Qui est-ce qui dirige une vie? C'est Dieu. Laissons-nous faire par lui. Et Dieu prend le temps de nous enseigner. Et Pierre dira, comme nous le verrons ce soir, que Dieu lui a appris des choses après son école biblique avec Jésus. Il a encore appris. On est toujours à l'école. J'apprends tous les jours. Nous sommes à l'école. Puis un jour, quand nous le verrons, alors nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Quel titre donneriez-vous à ce chapitre? La conversion de Saul, hein. On peut mettre Saul de Tarse, simplement. Et alors, c'est facile à apprendre. On a vu Étienne, et puis on a vu Philippe. Maintenant, on voit Saul de Tarse, et on sait que c'est sa conversion. Puis il y a le petit passage au sujet de Pierre, mais ça se lit. Alors ce soir, nous aurons le chapitre 10, à partir du verset 1 jusqu'au chapitre 11, nous irons jusqu'au verset 18, pour que notre lecture soit complète. Il y a 66 versets que nous allons survoler, puisque nous ne pouvons pas nous arrêter longuement. Mais nous espérons que cela va vous donner le goût de relire ces textes, de les méditer, et le Seigneur va vous donner encore d'autres lumières. Dans la mesure où les lumières reçues sont mises en pratique, le Seigneur nous donne davantage. Mais il faut d'abord pratiquer ce que l'on a compris, et le Seigneur nous éclaire pour la phase suivante. Quelqu'un voudra prier?
Amen. Baptisé à la maison. Il m'a donné la parole à la maison, c'est-à-dire. Et c'est dans Philippiens 3, à partir du verset 1. Plusieurs d'entre vous, peut-être, ont déjà entendu ce témoignage, et nous l'avons déjà entendu, ces paroles, cette semaine. Mais comme l'apôtre dit, je me lasserai point de vous la répéter. Car cela vous est salutaire. Au verset 1. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance à la chair. Et les paroles qui suivent, c'est les paroles qui m'ont beaucoup frappé ce jour-là, et je les ai relues cette semaine, et encore je me suis posé beaucoup de questions. Moi aussi, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le huitième jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et c'est cette parole-là que le Seigneur m'a donnée la journée où je fus baptisé. Que toutes choses qui étaient pour moi des gains, que je devais les regarder comme une perte, à cause de Jésus-Christ. Et même que toutes choses, je devais les regarder comme de la boue. Et si nous lisons la traduction anglaise, elle dit des ordures. Et voici, nous devons regarder toute chose comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je le regarde comme la boue afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et lorsque l'Esprit nous a donné ces paroles plusieurs fois durant ce temps-là, je me rappelais de ce jour que le Seigneur me les a donnés. Et je me demandais encore une fois, est-ce que j'ai vraiment renoncé à tout? Est-ce que je regarde encore toute chose comme une perte à cause de Jésus-Christ? C'est encore une question que je me pose aujourd'hui. Et je pensais à Jacob, un jour, le Pharaon lui avait demandé, quels sont les nombres des années de tes jours? Et Jacob lui a dit, les nombres des jours de mon pèlerinage sont de 130 ans. C'est court et mauvais. Et voici quelques années déjà que je suis baptisé. 4 ans, ça me fait honte de dire que je suis le Seigneur. J'aimerais donc ça marcher avec le Seigneur. Je trouve ça court et mauvais. Mais une chose que la parole me dit, j'oublie ce qui est en arrière et je porte mes regards vers ce qui est en avant, vers le but. Nous sommes dans une chair qui pécheresse et comme Paul a dit, qui est-ce qui me délivrera de ce corps de mort? Mais Paul avait ses regards en avant. Mais grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Et c'est ça la parole que je voulais vous laisser ce soir, le témoignage. Cette parole que le Seigneur m'a donnée à mon baptême, qui est encore réelle aujourd'hui pour moi. Merci.